Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
On est mal entré dans le match, il y a eu trop de déchets techniques, dans les duels on n'était pas présent. Ils n'ont pas été si dangereux que ça, mais ils ont entre guillemets maîtrisé le match. Au moment où ils marquent, c'est tout à fait mérité.
Hello les amis, ce heel dont parle Abdoulaye Touré, c'est bien sûr le SCO d'Angers, tombeur du hack 1-0 dimanche 1er décembre au Stade Océane au terme d'un match vide des ciels et marines, bien loin de la victoire à Nantes une semaine plus tôt. C'est à vrai qu'ils nous en font voir de toutes les couleurs. Pour en parler, j'accueille les grognards fidèles de ce podcast, j'ai nommé Luc Gallet du Courrier Cauchois et Mathieu Billot de Foot Normand, salut à vous.
Salut tout le monde.
Salut.
Et deux invités autour de la table, Alexis Bertin, bonjour.
Bonjour.
Et Rudisson Ferreira, bonjour.
Bonjour.
Votre point commun, c'est ce maillot ciel et marine que vous avez porté dans les années 2000, tous deux attachés au HAC. Vous suivez les prestations des Hackmen. On va débriefer ces dernières semaines et tenter de se projeter aussi sur cette fin d'année. Une chose est sûre, il faudra faire sans Josué Casimir. C'est parti pour le débrief 100% Hack, épisode 6. Et on démarre donc ce débrief 100% avec cette 9e défaite depuis le début de saison, la 5e à la maison, les Havrais qui retombent à la 16e place, celle des barragistes après cette journée. Et pourtant, on aurait pu espérer mieux après la prestation donc à Nantes, victoire 2-0. Compteur enfin débloqué pour les attaquants. Mais écoutez, le coach Didier Digard en conférence de presse, eh bien tout le monde a vu le hack peut-être un peu trop beau.
On nous voyait favoris. En fait, c'est toute une émulation qu'il n'y avait pas eu jusqu'ici. Mais ça a juste titre en fait, mais c'est juste que c'était nouveau pour nous et que les joueurs n'ont pas su le gérer et que du coup moi je ne l'ai pas bien encadré. Je pense réellement que c'est un état d'esprit qui a été beaucoup moins bon. On n'a pas fait le petit plus, on n'a pas du tout appliqué ce que l'on devait voulait faire. On a été d'une pauvreté technique incroyable. Pour moi il n'y a pas de hasard, on finit par concéder un but sur coup de pied arrêté. C'est le premier de la saison, ça arrive aujourd'hui, c'est pas pour rien.
Digard presque mystique hein, après ce match face à Angers. Qu'en pensez-vous, messieurs? Qu'en avez-vous pensé? Rudisson, vous étiez, je crois, en bord de pelouse hein, pour le coup d'envoi.
Bah, c'est vrai que c'est le jour, la nuit, comparé à la saison qu'on a vécue l'année dernière. Et la saison qu'on vit là en ce moment, c'est vrai que le foot, il est fait de haut et de bas. Mais là, niveau techniquement, physiquement, je pense qu'ils sont un peu... à la ramasse, ouais, on va dire.
Ça, c'était en tout cas cas dimanche.
Bah oui, c'est ça, ouais. Après, je pense qu'il n'y a pas de secret hein, dans le foot. Si tu ne travailles pas et que tu ne te lèves pas la tête et que tu dis, allez, le prochain match, il faut qu'on les prend par les... Et il faut y aller gagner, quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu triste, ouais.
Alexis ?
Je pense que c'est dommageable de ne pas avoir bonifié la victoire à la Beaujoire. Après, je pense qu'on revient toujours à l'état d'esprit. Nous, on n'est pas en interne dans le groupe, on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de défaites à domicile et c'est dommage.
Je pense qu'on va revenir sur cet état d'esprit.
Quand il parlait d'état d'esprit, j'ai l'impression qu'il parlait de... que l'environnement, du coup, après Nantes, a peut-être vu son équipe trop belle, ouais. Et que ça a en quelque sorte contaminé le groupe. Et du coup, ce groupe qui s'était mis un peu par terre contre Nantes n'a pas réussi à remettre les mêmes ingrédients. Mais vous qui avez joué à haut niveau, la difficulté, forcément, c'est d'être bon tout le week-end. C'est pas d'être bon un week-end. Non. J'imagine que vous l'avez vécu aussi au cours de votre carrière. C'est ça le plus dur dans le foot, et notamment quand on évolue au plus haut niveau. C'est de répéter les bonnes performances.
Oui, je pense. Après, on l'a bien entendu dans son discours d'après-match et depuis le début de saison, Didier Descartes, malgré les critiques qu'il engendre, il faut bien savoir qu'il est quand même, malgré son jeune âge expérimenté, il a quand même connu 3 championnats avec différents coachs. Donc après, je pense que voilà, lui, il connaît la situation, il sait que gagner un match, c'est bien, mais il se projette aussitôt sur la semaine d'après. Et on l'a vu, ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas au moins à obtenir des résultats des matchs nuls. On le voit sur les stats hein, où il y a, il me semble, 4 victoires, 9 défaites et il y a 0 match nul. Donc ça montre aussi une certaine faiblesse dans la combativité et dans l'état d'esprit.
C'est d'ailleurs ce qu'a dit Abdoulaye Touré en conférence de presse. Mm-hmm. C'est le problème depuis le début de la saison. On ne fait pas de match nul. Et quand on ne gagne pas, il faut savoir pas perdre.
Je crois que c'est ce qu'il y a. Oui, ça, on sait que le maintien peut jouer à 1, 2 points. Des fois, c'est même une question de but. Et donc c'est vrai que peut-être sur l'instant T, par exemple, si ça avait fait 0-0 dimanche, peut-être que les constats auraient été aussi sévères. Mais au final, peut-être qu'à la fin de saison, 2-3 matchs nuls comme ça, mais ça vous permet de repartir en Ligue 1 la saison d'après. Donc c'est important.
Ligue Galles, c'est une occasion manquée peut-être de...
Bah déjà, c'est le premier accro face à un concurrent direct pour le maintien. Déjà, ça, il faut quand même le mettre en avant. Et puis oui, ça commence à faire aussi beaucoup de matchs sans à domicile. Et quand on sait, ça doit être une force de jouer à domicile, de s'appuyer sur son public, d'avoir peut-être un supplément d'âme justement grâce à ses supporters. Bah là, ça ne s'est pas vraiment ressenti sur ce dernier match, pas du tout même.
L'état d'esprit, j'y reviens, c'est difficile de trouver un équilibre entre... Parce que là, évidemment, on peut se faire contaminer par du négatif quand ça ne marche pas. Et puis finalement, on se fait aussi contaminer par du positif.
Oui, bah, surtout là, je pense qu'ils en ont tellement envie de bien faire. Ils ont envie de rattraper un peu le début de saison. Ils souffrent trop. Ils sont trop ouverts. Et au bout d'un moment, bah, tu prends des buts quand c'est comme ça, que tu ne sais pas vraiment tenir la défense en place. Et quand t'as tout le monde qui part en même temps, bah, on a souvent le retour de la médaille. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de garder un petit peu l'équipe compacte derrière et essayer de fermer un peu. Comme on a dit, il n'y a pas de match nul, on ne sait vraiment pas tenir un résultat. Des fois, même quand on gagne, on arrive à se faire des frayeurs, à prendre des contres un peu bêtes. Mais je pense qu'il faut vraiment... faire une barrière derrière et pas s'ouvrir autant comme on fait là, surtout en ce moment, parce que je pense que tout le monde est un peu dans la tête instable, on va dire. Donc je pense que le coach il va savoir gérer, mais il faut faire vite.
Même si la prestation d'Arthur Desmas, notamment dans les buts, voilà, elle est plutôt... heureusement qu'il était là.
Oui, on va dire qu'il a fait notamment deux grosses parades. Donc, non, Arthur Desmas, c'est vrai que c'est peut-être le seul à vrai qui a été, on va dire, à la hauteur du rendez-vous dimanche. Moi, je m'interrogeais par rapport à cette question d'état d'esprit. Je voulais poser la question à nos invités. Est-ce que ça témoigne pas aussi peut-être de la jeunesse de l'effectif, dans le sens le manque de vécu au haut niveau? Parce que bien sûr il y a quelques leaders, il y a André Ayou, il y avait Abdoulaye Touré qui était là, mais quand vous regardez un petit peu l'équipe, Timothée Pembélé, vous regardez son CV, il a quasiment pas joué en pro avant d'arriver au Havre. Étienne Houtet, ça reste un jeune joueur. Gauthier Lloris, c'est un petit peu moins jeune. Christopher Opéry, au final, ce n'est que sa deuxième saison en Ligue 1 dans la peau d'un titulaire. Josué prend Casimir prend une autre dimension, on le verra un petit peu plus tard, mais pareil, Yacine Keshta, ça reste quand même des joueurs qu'ils n'ont pas 5, 6, 7 ans de Ligue 1 derrière eux. Est-ce que c'est un peu ça aussi peut-être qui manque à ce hack, un peu plus d'expérience?
Je pense aussi, on l'a vu sur la dernière composition où il a essayé de faire venir des anciens, des cadres. Après, je pense que tout le monde est au courant de l'effectif depuis le début de saison. Il y a aussi des joueurs qui ont sûrement surfé sur la première année de Ligue 1 dans la découverte et peut-être qu'étaient en sur-régime. Et sur cette seconde saison, le fait de confirmer aussi pour eux, avec un autre statut, plus compliqué.
On rappelle, Alexis, vous avez connu une montée en Ligue 1 avec le HAC. C'est un phénomène que vous avez connu, ça? C'est vrai qu'on parle souvent d'euphorie de la montée, mais après, il faut confirmer et c'est souvent le plus dur.
Ouais, c'est souvent plus dur, mais c'est aussi, je pense qu'il faut surfer sur la vague, c'est une bonne dynamique, et après c'est une question de confiance, on sait que ça peut basculer vite, mais je trouve que les ingrédients, ils sont quand même réunis, tout le monde réclamait la Ligue 1, aujourd'hui on est satisfait de l'avoir, le stade est bien rempli, donc c'est quand même une arme supplémentaire, et il faudrait que les joueurs en prennent bien conscience et en profitent.
Luc.
Ouais, là sur le dernier match quand même, moi il y a un aspect qui m'a quand même un peu alerté, c'est la qualité technique sur ce match. Elle était quand même d'une médiocrité quand même assez rarement vue quand même, même depuis le début de la saison. Alors après, il y a eu des matchs compliqués, mais face à des équipes d'un niveau bien supérieur. Mais là contre Angers quand même, moi c'est vraiment ça qui m'a alerté sur ce match-là, c'est cette pauvreté dans le jeu et quasiment pas d'occasion franche, si ce n'est même pas du tout, hormis je crois peut-être Nguyen et encore. Ouais, voilà, même pas.
Moi je veux dire
sur
pas
la deuxième
du tout.
Période, ouais.
Il y a un tir cadré et
ça, ouais.
Après match on se demandait où il était, donc pour dire que c'est pas marqué. C'était pas le Brésil, Rudy Sandler. C'était pas les plages de Copacabana où on fait le
petit. C'était peut-être le Brésil de maintenant.
Oh le tacle.
Non, mais je pense que tout le monde est un peu stressé, un peu focus sur le bien fait, sur bien faire en fait, et ils oublient un petit peu les principes du foot en fait. foot, c'est vrai que quand on est à l'extérieur d'en parler, c'est facile, mais le foot, c'est simple aujourd'hui. Il faut lever la tête, il faut savoir aller au combat. On n'a pas de foot sans combat aujourd'hui. Et là, je pense qu'ils ont oublié un petit peu cette partie-là d'aller au charbon, d'aller au combat, d'aller se battre. Ils ont tendance un petit peu à attendre que ça se passe, que ça se fasse, mais ça ne se fait pas tout seul.
Ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est qu'une semaine plus tôt, on a eu justement une leçon de combat, d'efficacité, voilà, avec un peu de qualité aussi technique, mine de rien aussi. Enfin, voilà, on a eu vraiment diamétralement deux visages bien différents.
Oui, d'ailleurs, c'est ça qui, je pense... Enfin, interpelle pas mal d'observateurs et de supporters, c'est que comment d'une semaine à l'autre vous pouvez livrer une prestation comme celle de Nantes et après chez vous contre un adversaire de votre championnat, comme on a coutume de dire, faire quasiment la copie inverse. Alors c'est vrai qu'à Nantes vous ouvrez le score d'entrée, on va pas se mentir, Nantes est aussi un peu dans le trou psychologiquement, on parlait des esprits, je pense que ça vient aussi aider au terme de rapport de force. Et alors je vais préciser, forcément je pense pas qu'ils font des matchs comme ça tous les week-ends, mais je sais pas ce que vous en avez pensé messieurs, que si vous avez vu le match, mais moi j'ai trouvé surprenante cette équipe d'Angers, avec vraiment une très très belle équipe, sachant que c'est quasiment la même équipe qu'ils avaient l'année dernière en Ligue 2, vu qu'ils ont pas de sous, ils peuvent pas recruter, eux non plus, avec leur petite colonie d'anciens Havrais, parce que visiblement bon, on aime le Havrais visiblement, à l'image du buteur Imad Abdelli, hein, qu'on connaît bien, voilà, mais j'ai trouvé qu'il a fait un match, enfin un vrai joueur de foot quoi, j'ai vraiment été... Alexis, je sais pas ce que vous avez pensé.
Oui, après, j'allais le dire justement, je pense que le match qu'ont fait les Havrais, c'est aussi en partie dû à la qualité des Angevins. Techniquement, c'est costaud, c'est fort, ça joue simple, ça joue vite, et ils ont des individualités capables de faire des différences à tout moment. On l'a vu au niveau de Imad Abdelli, où sur sa qualité de passe, de dernière passe, il peut faire mal à tout moment. Après, ce qui est regrettable pour nous, à vrai, c'est de prendre un but sur coup de pied arrêté. C'est des choses que, à mon avis, ils doivent travailler et qu'on ne doit pas prendre.
D'autant quand on sait que c'était Paul Ford d'Imad Abdelli, le jeu de tête. Hein, donc,
il a même précisé que c'était son premier but de la tête en pro.
Il a surpris son coach, ouais.
Ouais. Il était un peu tout seul dans les 6 mètres.
Un peu laissé seul, ouais.
Malgré tout ce qu'on dit là, tout est encore possible dans les prochaines semaines, notamment là, le match qui arrive.
Oui. Bah d'autant plus que quand on voit la dynamique en ce moment de Nice et le nombre d'absences qu'ils ont dans leur effectif, on peut penser qu'il y a quand même un petit coup à jouer quand même.
Ça bouge très vite de toute façon, même d'un point de vue comptable. Mathieu, vous êtes un petit peu notre monsieur mat en général.
Ah oui, on est mal barré, hein. Je pourrais pas vous le dire tout de suite parce que je vais pas noter mon bulletin de l'époque, mais c'était pas terrible. Non, ce qui est dommage, c'est que c'est vrai qu'ils ont raté une opportunité de se donner un petit peu d'air, parce que si le HAC l'avait emporté dimanche, il serait 12e avec 15 points, et du coup le barragiste serait à 4 points, le premier relégable à 5. Donc, c'est vrai que dans une perspective de lutte pour le maintien, ça fait un joker, voire presque deux. Donc, du coup, aujourd'hui, malheureusement, vous êtes barragiste, mais voilà, vous n'êtes qu'à un point du premier non relégable.
Ouais. Oui, ça, du 13e même.
Je crois. Est ouvert. C'est plus le fait d'avoir laissé passer une opportunité qui semblait à leur portée compte tenu de ce qu'ils avaient fait contre Nantes. Maintenant, je pense que ça va être un peu ça toute la saison. C'est-à-dire peut-être un coup on va être surpris positivement, un coup ça sera malheureusement surpris négativement. Et de toute façon, je ne vois pas comment le HAC ne pourrait pas jouer le maintien jusqu'à la dernière journée. Donc je pense qu'il va falloir s'habituer du côté des supporters un peu à ces montagnes russes. Ils sont, je pense, tout à fait capables de prendre ne serait-ce qu'un point à Nice dimanche.
Oui, bah, ça serait bien s'ils obtenaient déjà un match nul à l'extérieur là-bas, sachant que...
Le match nul qui manque.
Ouais, non, mais sincèrement, oui, parce que Nice, c'est costaud. À l'extérieur là-bas, c'est compliqué, même s'ils ont des absences. Pour bien repartir et solidifier un peu une assise défensive, je pense que faire un nul là-bas, ça serait bien pour enchaîner derrière.
Eh bien, vous parliez des absences. On va parler justement d'une absence havraise cette fois-ci.
Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ont ce que Josué a dans les jambes, donc on sait déjà que ce sera une absence préjudiciable et c'est un joueur qui nous fait beaucoup de bien, qui est rapide et surtout qui fait beaucoup de sprints, il peut les répéter et sur la durée, donc c'est sûr que c'est vraiment dommage. On espérait avoir trouvé un semblant de continuité et malheureusement avec son absence ce sera pas le cas, donc
il y a déjà
on va travailler.
L'analyse de Didier Digard dans votre débrief 100% HAC, l'entraîneur havrais qui s'exprimait en conférence de presse juste après le match face à Angers, après la sortie de Josué Casimir sur Civière à la 76e minute. Blessure alors relativement moins grave que ce qu'on pouvait craindre, Mathieu.
Bah, c'est vrai que dimanche, on entendait parler de fracture de la malléole. Donc, oui, c'était pas très, très rassurant. Là, l'info qu'on a, c'est que c'est une grosse entorse. Donc, messieurs, vous êtes peut-être mieux placés que nous, mais ça veut un peu tout dire et rien dire. Visiblement, c'est quand même assez sérieux. Il ne reviendra pas d'ici la fin de l'année 2024. Et ce qu'on nous a précisé, c'est quand même qu'il fallait surveiller l'évolution dans les prochains jours pour voir si, éventuellement, c'était pas aussi grave. Je sais pas, une grosse entorse, c'est, à mon avis, c'est, on est parti sur un mois au moins.
Ouais, je pense. Déjà, c'est rassurant, s'il y a rien de cassé, c'est une grosse entorse. Ben voilà, malheureusement, c'est préjudiciable pour Le Havre, mais c'est aussi rassurant parce qu'on sait qu'on le récupère au mois de janvier et puis voilà, il va bien s'en remettre rapidement, mais il sera plus là pour les derniers matchs.
Ouais, je pense que l'objectif, c'est de la, dans le meilleur des cas, de l'avoir pour début janvier, sachant que ça reprend dès le 5, par un déplacement à
avec
Marseille.
L'OM. Voilà. Bon, c'est préjudiciable, vous le disiez. C'était l'un des piliers là de cette équipe pour l'instant.
Bah oui, je pense que c'est un des joueurs les plus dangereux du Havre depuis le début de saison. Avec les matchs qui arrivent là, je pense qu'il aurait fait beaucoup du bien au Havre, surtout pour sous les contres, les attaques. Qui menait, ça ramenait toujours un danger devant le but. Donc, je pense qu'il ouais, il va manquer à cette équipe-là cette fin d'année.
Avec un but au compteur, un but validé, mais trois buts au total, hein, c'est ça, ouais. Si j'ai bien mis.
Bah, ils ont fait refuser, oui, deux pour des hors-jeux, ouais. Après plus. Intervention de la VAR.
Des hors-jeux plus que limite.
Voilà, et plus de passes D.
Ça va être préjudiciable, Luc.
Préjudiciable parce que en plus il est capable de s'adapter à différents postes et c'est sans doute même la principale menace quasiment offensivement depuis le début de la saison du HAC. Donc oui, absence très 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 embêtante, on va dire.
Vous me voyez venir la prochaine question. Qui pour prendre le relais sur le terrain, est-ce que vous avez
C'est ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'il avait commencé la saison en pointe. Là, ça faisait le deuxième match que Didier Gare l'alignait dans un rôle de piston à droite, qu'il avait déjà connu avec Lucas Esner. Donc, il avait fait un très très gros match à Nantes, des deux côtés, hein, offensivement et défensivement. Ce fut loin d'être le plus ridicule dimanche, même si c'était pas à la hauteur de la prestation de Nantes. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait le même profil, parce que c'était même un peu une curiosité qu'il soit aligné à ce poste-là. Donc après, on est sur des joueurs, voilà, le candidat naturel, c'est Loïc Négo, voilà, qui joue un petit peu moins depuis quelques matchs. Sinon, il avait mis aussi Timothée Pembélé, mais là, on est sur un profil totalement différent, vraiment un profil défensif. Je sais pas lequel sera opté, mais c'est vrai que c'est pas la même chose en tout cas.
Bah, tout va dépendre peut-être aussi des choix tactiques que va faire Didier aussi, hein, s'il veut avoir un peu plus d'allant offensif ou s'il veut justement un peu plus sécuriser son arrière-garde. Mais oui, je pense que Loïc Négo semble le plus à même de le remplacer, en tout cas ce poste de piston droit.
Odison, ouais. Loïc ou Timothée?
Bah, moi, je pencherais plus sur Loïc, sur Négo, parce que je trouve que c'est un joueur qui a une capacité incroyable d'attaquer et de défendre. Mais après, tout dépend de ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va vouloir fermer un petit peu ou est-ce qu'il va vouloir ouvrir un petit peu plus? Donc, à voir.
Alexis, ouais. Vous qui avez été entraîneur, forcément, ça fait partie du boulot, du job de faire avec, ouais, avec les absences.
Ouais, mais après, j'ai pas vu, je vais pas mentir, j'ai pas vu beaucoup de matchs cette année du Havre, mais je pense que l'expérience de Négo et la qualité de centre qu'il a sur ce match-là peut être importante pour le HAC.
Donc, on met une petite pièce.
On a une petite pièce. Après, José Casimir, il y a aussi, on parlait un peu de leader. C'est lui qui porte le brassard, qui portait du coup le brassard depuis deux matchs. Donc à Nantes, on pouvait trouver ça logique. Aruna Sanganté est toujours blessé. Abdoulaye Touré était suspendu pour ce match-là. Là, Abdoulaye Touré, qui est quand même le cadre par excellence dans le vestiaire havrais, c'était quand même José Casimir qui avait le vestiaire.
Le brassard.
Ouais. José Casimir, il n'est pas blessé ou s'il n'est pas suspendu. Il joue quasiment tous les matchs, il est titulaire quasiment tous les matchs, peu importe le poste. On a vraiment l'impression que sous Didier Digard, il a pris une autre dimension. En tout cas, on sent que Didier Digard, c'est un de ses joueurs clés sur lesquels il se repose, même, je pense, en termes d'état d'esprit. Donc, via le remplacement, sportif, et puis il y a peut-être le remplacement aussi un petit peu dans le vestiaire, même si bien sûr il sera aux côtés de l'effectif, mais c'est deux choses un petit peu, c'est deux choses un petit peu différentes. On sentait, je me rappelle sur une conf de presse là, je crois que c'était après Reims où nos confrères l'interrogeaient, oui. Benoît, pour ne pas le citer, sur la faiblesse de l'attaque. J'étais pas spécialement d'accord avec l'intervention de Josué, mais il a montré du caractère en essayant de répondre, en essayant de défendre un peu son groupe. Bon voilà, c'est aussi important que dans les moments compliqués, vous ayez deux trois cadres qui viennent répondre aux médias. Je sais pas, Alexis, est-ce que vous faisiez partie des bons clients qui allaient tout le temps, ou ou plutôt vous preniez la petite porte dérobée pour éviter
Non, après je pense que c'est aussi leur rôle et c'est leur responsabilité aussi d'aller assumer. Mais sur le capitanat, je pense que c'est pas forcément souvent les coachs ils désignent un capitaine, mais il y en a deux ou trois derrière qui sont là pour prendre aussi le relais. Ils ont chacun sa façon de s'exprimer, de parler au groupe. Donc voilà, je pense qu'ils vont faire abstraction de ça, même si c'est vrai qu'il était en pleine bourre, il s'en refait un peu aussi avec la confiance, et il était vraiment performant, mais un groupe ça sert à ça, et je pense pas que ça sera pour le peu de matchs qui restent, ça, on va faire en sorte d'y arriver comme ça.
Ce brassard, c'était, est-ce que le fait qu'il soit aussi de la KV, ça comptait ça
Je pense, je peux pas, ouais, je pas sais savoir. Pas, je vous dis, je peux pas, on peut pas savoir nous de l'extérieur, hein. Sûrement qu'il le doit aussi à son état d'esprit, à ses qualités, à ce qu'il démontre sur le terrain, même s'il a un jeune âge. Je pense qu'il doit avoir un fort caractère aussi, parce que généralement, on met un leader, donc voilà, il doit répondre à toutes les cases. Quoi.
Il est quasiment joué à quasiment 90 matchs pro en championnat avec le HAC à 23 ans.
Ouais.
Ça commence à compter un petit peu quand même. Donc voilà, bon, après, par exemple, à Nantes, il n'y avait pas Abdoulaye Touré. Avant le match, on s'inquiétait beaucoup.
Et ça s'est bien
personne
passé.
N'est remplaçable par définition. Mais oui, ça va être l'un des enjeux des deux prochaines compositions. Bon, il y a le match de Coupe de France avant la trêve de Noël. Du coup, c'est à Saint-Brieuc, une formation de N2. Bon, voilà, si le Havre peut faire un parcours en Coupe, tant mieux. Mais je ne pense pas que c'est la priorité de la fin de l'année.
Ça ne sera sans doute pas une priorité.
Voilà.
Je pense pas.
Donc, il y a deux matchs très importants. Nice, on a fait référence. Et puis, la réception de Strasbourg. Qui s'apparente, au moment où on se parle, à un concurrent direct, 4 défaites de rang pour le Racing. Donc ça, ce sera le dernier match au stade Océane. Ils ont 12 points aujourd'hui. Si on basculait à la trêve avec 15 points, ça ferait 15 points en 15 journées. Ouais. Ce serait à peu près dans les clous, non, Rudisson, pour le maintien.
Ouais, je pense qu'il faut et surtout finir l'année avec une bonne note.
Oui, une note positive pour passer les fêtes psychologiquement.
Ouais, psychologiquement, ça aide au retour des vacances. On attaque avec un autre état d'esprit que quand tu pars avec des défaites, surtout des petites défaites comme ça. Là. Donc oui, je pense que ça ferait une grande différence de finir l'année comme ça.
Eh bien, réponse dans 15 jours.
Ils sont en finale, ils sont en D1, ils y reviennent en tout cas. C'est le club doyen, on l'appelle comme ça, le Havre Athletic Club. Et regardez les yeux d'Alain Caveglia, ils veulent tout dire.
Je vous vois sourire, ça fait plaisir d'entendre cette voix, notre Thierry Roland national. On va parler un petit peu de vous, l'un et l'autre. Et là, ce qu'on vient d'entendre, eh bien, c'était le 26 avril 2002, le HAC de retour en D1 à l'époque.
Oui. Et vous ça ne nous rejoignit pas, dis donc, Alexis,
pas trop, tout
ça.
Hein,
quand même, hein.
Parce que vous y étiez, donc Alexis, c'était votre première saison en pro, c'est ça, sous le maillot du HAC?
Oui, c'est ça, ouais. Première saison en pro à 21 ans. Donc, mais bon, comme vous l'avez cité, il y avait des anciens, il y avait du talent à l'époque avec des joueurs expérimentés qui venaient de gros clubs comme Caveglia, Cheselski, De Nio, et j'en passe. Mais c'est vrai que pour la première année, quand on est jeune pro, on se rend pas trop compte, on est pris là-dedans et puis finalement, tout s'est bien enchaîné, mais on avait un super état d'esprit dans le groupe et ça rejaillissait automatiquement sur le terrain.
Finalement, vous projetez parfois, ou au moment de la montée, là, il y a deux ans, dans la tête des jeunes.
Non, mais après, oui, je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus. C'est vrai que des fois, tout part aussi du recrutement. Hein. C'est important sur la façon de jouer, comment on veut jouer, avec des profils bien définis. Mais surtout aussi, maintenant, on le voit, l'état d'esprit prime, parce que des fois, si les joueurs n'ont pas un bon comportement et ça ne se passe pas bien dans les vestiaires, et ça crée beaucoup de conflits et ça, un mal-être sur le terrain. Après, il n'y a pas pire.
Est-ce que c'est le plus fort souvenir de votre carrière avec le HAC, cette montée ou
Bah ouais, ça en fait partie. Après, c'est sûr que j'en ai connu qu'une, moi. Et quand on compte, au bout de 24 ans, il n'y en a pas eu beaucoup, finalement. Donc on en fait partie, on est quand même fiers, en étant un vrai. Et après, voilà, je suis parti un peu à droite, à gauche, mais j'ai des expériences. Puis on découvre un peu comment ça se passe ailleurs. Mais finalement, le hack, c'est bien.
On y revient bien, ouais.
Alors, j'ai pas signalé que c'était Hack Archive, Hack Foot Archive qui avait retrouvé cette belle archive de Thierry Roland. J'en ai pas pour vous, Dixon, en son. Vous êtes pas passé par la KV, contrairement à Alexis, mais vous êtes aussi resté fidèle du club et toujours présent quand il y a notamment les anciens, les matchs. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'un Brésilien comme vous est resté attaché à cette terre?
Le climat.
C'est pas le climat, ça, c'est sûr. Non, mais j'ai ma famille ici, ouais. J'ai rencontré ma femme ici quand j'étais là. Donc, ma fille, elle est née à Montivier. Et maintenant, bah, je ne me vois pas partir au Brésil et laisser ma fille ici. Donc, j'ai essayé de rester au plus près d'elle. Et tant que je suis là, je peux aller au stade. Ça me fait toujours plaisir d'aller voir les copains, les joueurs qui sont toujours là. Donc, mon attache familiale, et j'adore l'Havre depuis que je suis là. J'ai plein de bons copains, des amis, un peu de la famille, parce que j'ai plein d'amis qui sont devenus vraiment ma famille ici. Donc je suis pas prêt de partir.
C'est important de rester,
même si le climat est...
Ouais. Ça va pas s'arranger, ça, hein,
y a les vacances pour ça, non?
Oui, je pars quand même deux fois par an au Brésil.
Voilà, c'est important pour l'un et l'autre de pouvoir répondre de temps en temps présent aussi quand le club organise des choses, enfin voilà, ou en tout cas de parler toujours de cette...
Bah moi j'aime bien ça particulièrement, parce qu'on retrouve des joueurs qu'on n'a pas vus depuis des années, qu'on se retrouve dans un espace d'un match ou d'une après-midi, et on a l'impression d'avoir jamais quitté vraiment, de retrouver des petites anecdotes, des petits trucs, des petits... dans un match, de retrouver des phases de jeu qu'on a eues à un moment ou l'autre. Donc c'est sympa, ça fait toujours plaisir.
On a 20 ans à nouveau dans le...
Ouais, on se croit avoir 20 ans. Mais quand la prothèse doit en chasser...
Quel regard vous portez, vous, l'un et l'autre, peut-être sur le hack d'aujourd'hui, 2024, le hack version Roussier, version Bonnemer, Alexis?
Je pense que c'est une chance aussi d'avoir des gens compétents qui connaissent bien le football, avec un sacré réseau. Donc, et c'est une chance qu'on soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Ligue 1. Il faut en profiter, parce que même si là, il y a beaucoup de critiques, malgré tout, par rapport à ce qui se passe dans le football actuel, on sait qu'économiquement, c'est difficile. Donc, il faut profiter de la chance qu'on a d'être en Ligue 1. Et puis, on va serrer les dents cette année s'ils arrivent à se maintenir, en espérant que la saison prochaine, on ait plus de moyens pour pouvoir faire un recrutement plus judicieux.
Je fais une toute petite aparté. Alexis, vous faites référence aux critiques. Didier Digard fait l'objet de beaucoup de critiques de la part des supporters, en tout cas ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux. Une défaite, bim, ça repart, on remet une pièce dans le jukebox. Moi, je suis de l'extérieur, je suis assez surpris de ces critiques-là, du nombre et de la violence qui sont arrivées très rapidement dans la saison. Parce que Didier Digard, c'est comme vous un ancien joueur du club, c'est comme vous un produit de la KV. Que à travers ces déclarations, moi, j'y ai jamais eu de fausses notes, de déclarations contre le club ou contre ses dirigeants. Bien au contraire. Et il est vrai. Enfin, en tout cas, sur les réseaux, c'est incroyable. J'aurais des dimanches, là, après la défaite contre Angers. Je ne remets pas en cause que c'était un non-match et voilà, mais quand vous êtes le Havre, quand vous êtes en Ligue 1, malheureusement, votre destin, en tout cas, cette saison, c'est de lutter pour le maintien. Est-ce que vous êtes un peu surpris de ça? Moi, je m'attendais à plus de clémence, comme c'était un ancien de la maison, et en plus, Digard, ça a été un très bon joueur de foot, hein, c'est pas n'importe quel ancien non plus.
Après, je pense qu'il faut savoir, il sait très bien, Didier, quand il est venu là, par rapport à l'effectif qu'il avait, peut-être qu'il est surpris de la manière que ça a tourné par moment avec le public. Il a peut-être été pris en grippe, mais après, il faut savoir aussi à ce niveau-là l'accepter, même si c'est difficile. Je pense qu'il est toujours resté assez, moi je l'ai pas revu, mais d'extérieur, il est assez serein. Et quand on écoute ses après-matchs ou ses avant-matchs, il est toujours sur le même piédestal. Et dans la difficulté, c'est là qu'on voit... On voit la qualité de l'homme aussi. Il a un effectif qui est complètement différent que de celui de Nice, avec lequel il a eu des résultats. Et là, c'est, pour lui, c'est un apprentissage aussi. Hein. C'est un jeune entraîneur. Donc, il servira à l'avenir de tous ces événements-là. Mais je pense qu'il faut lui faire confiance. Et dans le temps, il a la chance aussi que la direction. Parce que maintenant, de nos jours, à tout moment, les coachs sont vite évincés. Et je pense qu'à la fin de saison, quand il obtiendra les points nécessaires pour se maintenir.
Après, les critiques sont sur les réseaux sociaux. Elles ne sont pas, je ne crois pas, en tout cas, sur des banderoles, dans
non.
le stade. Enfin, voilà,
on c'est toujours pareil. Il y a souvent de public, hein, souvent le public des réseaux sociaux et le public des stades.
C'est un peu alors, plus exacerbé,
ouais,
justement.
Ouais, alors peut-être que forcément, l'anonymat sur les réseaux aide à se lâcher un petit peu.
Il y a la cote de popularité de Lesner qui était énorme. Donc voilà, c'est deux profils différents aussi. Ça fait mal de passer derrière. Mais voilà, je pense qu'il faut un peu de temps. Il faut lui laisser faire ses preuves et puis ça va aller.
Est-ce que Le Havre est suffisamment une ville de foot, puisque vous parliez de la Ligue 1 et il faut en profiter, effectivement. Là, on sait que la fréquentation dans le stade, elle est quand même nettement supérieure maintenant qu'il y a ces équipes de Ligue 1 qui viennent et que Le Havre joue en Ligue 1. Est-ce que néanmoins, Le Havre est une ville de foot suffisamment, Rudisson?
Bah oui, Le Havre est devenu une ville de foot depuis quelques années déjà, je pense. On a les stades qui sont assez remplis, même si quand on a une petite série de défaites, on voit la fréquence baisser un petit peu, mais il y a toujours les supporters qui sont là depuis les années que j'ai passées. Je retrouve des gens encore sous les tribunes, des années que j'ai joué au Havre. Donc, je pense qu'il y a une vraie passion pour le foot ici, il y a une vraie amour. Mais après, c'est comme tout, le foot, c'est ingrat. Quand on gagne, on est les meilleurs, on est les plus beaux. Et quand on perd, bah, malheureusement, les supporters, ils ont cette frustration dans la tête qu'ils expriment un petit peu plus sur le réseau que dans le terrain, vraiment, parce qu'ils sont seuls. Ils ont cette possibilité de le faire. Mais oui, je pense que Le Havre, c'est devenu une vraie ville de foot. Hein.
On peut quand même préciser que ce week-end, moi, j'ai trouvé que le stade était copieusement garni. Mmh. Je crois que le chiffre annoncé, c'est 20 000 spectateurs.
Un petit peu plus de 20 000, ouais.
Voilà. Moi, j'ai trouvé visuellement qu'il était bien rempli. Sachant qu'en plus, comme l'a fait remarquer quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui suivent le match debout entre les deux tribunes. Oui. Allez, donc ça peut
certains
aussi.
Certains sièges.
Et en face, c'était Angers. Alors, c'est un match important pour Le Havre, mais des fois, on peut reprocher à certaines personnes de venir parce que c'est le PSG, Marseille ou Lyon. Là, je pense que les gens qui étaient présents, ils étaient venus tous pour le hack. Alors, c'était pas passé comme ils escomptaient, mais donc, moi, j'ai trouvé que justement, sur ce match-là, j'ai trouvé qu'il y a eu une belle mobilisation du public et que c'était bien plein pour un dimanche début décembre. Comme on a dit avec Rudisson, c'était pas les conditions, c'était pas les conditions climatiques de fou. Donc, on sent quand même qu'il y a un soutien, mais bon, il y a forcément, je crois que c'est vous, Alexis, qui l'avait dit, il y a beaucoup de défaites à domicile cette saison. Et bon, forcément, il y a beaucoup de gens qui ne voient que les matchs à domicile, ou en tout cas, c'est leur ressenti. Donc, la victoire à Nantes, il y avait 400, 500 supporters. Alors forcément, je pense qu'ils ont passé un super moment.
Pas une très bonne fin de match, toutefois.
Les supporters à vrai, ils étaient bien, les supporters nantais. Après, bon, chacun ses problèmes. Hein,
ils attendaient peut-être la fin du
match. Oh oui,
hein,
ça allait bien. Ils ont
juste attendu une demi-heure de plus pour célébrer.
Ils étaient bien, mais bon, voilà, c'est vrai que on peut comprendre la frustration. Mais vraiment, vraiment, j'ai noté ça dimanche. On aurait pu se dire que c'était entre guillemets que Angers et s'attendre peut-être à une affluence autour des 15, 10, 16 et tout. Non, mais plus de 20 000. Ça prouve quand même que les supporters sont derrière leur équipe.
On tourne toujours à peu près dans ces eaux-là, non?
Ouais, je sais pas, ça m'a marqué plus dimanche que sur certaines rencontres. Un effet visuel.
Je crois qu'on dépasse depuis le début au moins les 17 000 à chaque fois, hein, je crois.
Ouais. Alors 17-18, c'est sûr. Mais voilà, je trouve que ces 2 000-là, des fois, je trouve que ça fait la différence. Je pense que les 2-3 000 personnes qui viennent en plus, c'est des gens qui viennent pour le hack. Et ça, je pense que ça fait un petit peu ça peut faire la différence. Ça l'a pas fait dimanche. Espérons pour le HAC que ça le fasse sur les prochains matchs. Juste un petit mot, Mario Edison, si je me trompe pas, on disait que vous aviez été sollicité quand il y a des manifestations en lien avec le HAC. Vous aviez été sollicité par la Seleção aussi,
oui.
Si je me trompe pas, quand l'équipe du Brésil est venue, c'est il y a 2 ans maintenant.
Brésil-Ghana, ouais.
C'est ça.
Le
donc le Brésil de Neymar qui était venu passer, donc disputer un match contre le Ghana.
C'est ça.
Et toute la semaine, entraînement, ils avaient logé ici.
Ouais.
Et vous étiez un petit peu leur chef de délégation, un petit peu local, quoi.
Le traducteur.
Traducteur,
oui,
ouais, surtout.
J'ai fait le traducteur. J'ai montré un petit peu Le Havre à tout le monde. J'ai passé quelques temps avec eux à l'hôtel, au stade. Donc, j'ai montré un petit peu. Ils étaient enchantés d'ailleurs de connaître la ville du Havre. surtout le coach, il m'a beaucoup parlé du bien. Il dit, oh, c'est vraiment sympa la ville, elle est vraiment sympa.
Il a adoré Saint-Joseph, l'église.
Ouais. Oui, il a. Donc, je pense que ils étaient vachement surpris de trouver un accueil aussi chaleureux au Havre. C'était un bon moment.
Ouais, vous aussi, ouais, vous quand même, en tant que Brésilien, ça doit être un plaisir absolu quand même d'être aux côtés de la CLSAO pendant une semaine.
Ouais, c'était génial. C'était vraiment un moment qu'on en rêve tous. Hein. Tous les Brésiliens rêvent de jouer en équipe première du Brésil. J'ai connu les équipes de jeunes.
Ce qui est déjà énorme déjà.
Ah voilà, c'est exceptionnel. Donc, on a toujours rêvé plus ou moins d'être là dans le groupe et de voir la préparation, de voir les joueurs se préparer, de voir les conférences de presse, parce que j'étais tous les conférences de presse à traduire pour auditer. Donc, c'était vraiment, on se projette un petit peu dans l'équipe et tout. On dit, oh là, c'est un super moment. Et j'ai profité de chaque instant. C'était vraiment incroyable.
Petite question pour Alexis. Ouais. On est, alors c'est aussi la côte, mais c'est pas le Brésil.
C'est pas Copacabana.
C'est pas Copacabana.
C'est pas pareil.
Est-ce qu'on surnomme Deauville? Est-ce que Deauville n'est pas le Copacabana
de l'Orient? Je me demande si à Merville-Franceville, il n'y a pas un panneau avec marqué vous n'êtes pas Copacabana, vous êtes à Merville-Franceville. Donc c'est pas très loin.
Un podcast géographie.
La côte fleurie, en tout cas.
Non, Alexis, du coup, vous avez, après avoir raccroché les crampons, vous avez enchaîné avec une carrière de coach au niveau régional. Hein. Il y a notamment deux expériences, hein, Octeville et Deauville-Trouville, jusqu'à la saison dernière.
Oui.
Avec Deauville, vous avez arrêté deux fois de peu la montée. Parce que si je ne me trompe pas, c'est lors de la finale d'accession, c'est ça?
Deux ans, c'était sur le dernier match
dernière
à domicile,
journée, ouais.
Et, où il y avait deux montées. Et la saison dernière, c'est sur la. On a fini premier, mais sur le match de barrage.
Contre Grand Quevilly, du coup. Aujourd'hui, pas de club à l'heure actuelle?
Non.
Demain?
Sûrement pas. Ça dépend le niveau.
Après demain?
Pour l'instant, je suis bien.
Non, pour l'instant, il n'y a pas de manque.
Pas du tout. Pas de manque du tout. Je suis bien comme ça. Faudra vraiment un projet intéressant. Mais pour l'instant, non, pas du tout.
Parce que vous avez fait ça quasiment pendant une dizaine d'années, du coup, entre l'expérience à Octeville et l'expérience à Deauville.
C'est ça.
Ça regroupe une dizaine d'années quand même.
6 ans et demi à Octeville-sur-Mer, de district de D1 à R2.
R2, ouais.
Et ensuite, Deauville, j'étais venu il y a 2 ans et demi pour les maintenir en R1. Mmh. Et on a loupé la première année, la montée, et la deuxième année également.
Bon, vous dites un projet intéressant, du coup, c'est pourquoi pas, oui. Goûter au niveau national un petit peu avec une équipe à terme, en tout cas ça pourrait être quelque chose comme ça qui pourrait vous faire replonger sur les terrains le samedi soir.
Ouais, je pense, j'ai envie d'entrer en N3, hein. C'est pas une surprise maintenant, je pense que j'ai fait le tour du régional, mais après un projet avec un club ambitieux de R1 pour pouvoir me permettre d'accéder au N3, c'est sûr que je serai à l'écoute.
Voilà, vous seriez moins...
Moins fermé.
Moins ferme.
est-ce qu'il y a eu des approches, là, justement?
Aucune.
Aucune
approche.
Bon, ouais, on va devenir votre agent, vous allez voir. Ça va... Allez, coup de téléphone, ça va tomber.
Il y a quelques clubs qui recherchent, là,
Mais bon, on va s'occuper de ça. La prochaine fois qu'Alexis viendra, il aura un club, je vous le dis.
Eh ben, rendez-vous est pris.
On va attendre l'invité d'être sûr qu'il y a un club et tout.
Je vous propose qu'on se quitte comme d'habitude avec un petit coup d'œil sur les autres formations du HAC. D'abord, le challenge des espoirs, ou le challenge espoir, je ne sais plus comment.
Qui se jouait à Deauville.
Oui, c'est ça, je l'ai lu, mais c'était face à Montpellier. Victoire 1-0 hier à Deauville, je l'avais marqué, effectivement. Les Havrais sont en tête de la poule en Régional 1. Succès de la réserve 3-2 face à l'Auxerrois à 9 contre 11, avec un but notamment d'Ismaël Bouneb. Les U19 de Cédric Lécluse battus 2-1 par Dunkerque. Les Havrais qui tombent à la 11e place au classement. Et puis en U17, défaite également 3-2 sur la pelouse du Paris FC. À noter que chez les féminines, c'était la trêve internationale, avec 5 Havraises en sélection, dont les prometteuses Melinda Mendy et Chancel Efaefa, avec les Bleuettes. Victoire 4-0 face à la Macédoine, 8-0 face à la Slovaquie. Et nos deux Havraises ont marqué, l'une dans chaque match, je crois.
Faut marquer avec le HAC maintenant.
Alors, pourquoi pas.
Elles sont entraînées avec le maillot tricolore. Il faut essayer de faire ça maintenant avec le maillot c'est les Marines.
Et ben voilà, la réponse au prochain match en tout cas. Merci beaucoup, c'est ainsi que s'achève le sixième numéro de votre débrief 100% HAC. Merci à nos deux invités, Alexis Bertin et Rudy Sonferreira, d'avoir été avec nous. Je rappelle que si on veut garder la forme comme un footballeur de haut niveau, ben on peut s'entraîner avec vous, l'un et l'autre. Mathieu
pourquoi,
Bio...
pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? C'est bizarre quand même. C'est
bientôt le 1er janvier, les bonnes résolutions.
Donc je vais aller voir Alexis plus souvent, c'est ça, et Rudy Son plus souvent, chacun leur tour.
Ça va être la grosse... la grosse saison pour vous. Mathieu Billot, on vous lit sur footnormand.fr. On parle toujours de Coupe de France dans vos colonnes en ce moment.
Toujours. Et tant qu'il y a des clubs normands d'engager, on y va.
Luc Gallet dans le Courrier Cauchois, voyage en terrain inconnu cette semaine avec un certain Gilles Fouache.
Oui, tout à fait.
Ancien entraîneur des gardiennes de l'équipe de France qui est parti rejoindre lui aussi Hervé Renard en Arabie Saoudite. Je dis lui aussi,
ouais.
Parce que le directeur du centre de formation.
Avec François Rodriguez notamment aussi qui est parti là-bas. Et on parlait de Coupe de France, là aussi pour la prochaine édition qui sort vendredi pour le Courrier Cauchois, il y a un joli retour sur... sur cette malheureusement fin de parcours pour l'US Bolbec face au SM Caen. Bon, résultat logique, mais voilà, on va essayer de revenir en détail sur cette fin d'aventure et ce beau parcours de l'US Bolbec.
Là aussi, ça a été les montagnes russes avec le choix du terrain.
Avec beaucoup de choses à redire.
Effectivement. Eh bien, merci à tous. On se retrouvera d'ici 15 jours pour un bilan avant la trêve des confiseurs et avant la Coupe de France. Match, on l'a dit, face au Stade Briochin. Fin de partie, à bientôt dans le débrief 100% HAC.